L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, une édition spéciale des décodeurs de l'écho. Donald Trump est pendant 2 jours à Paris, donc il est arrivé en fin de matinée. Visite privée, hein, quasiment, avec Emmanuel Macron cet après-midi aux Invalides, entretien à l'Élysée. Conférence de presse, donc, aux environs de 18h45, 18h50, un dîner à la Tour Eiffel, et puis, bien entendu, demain, le président américain qui sera sur les Champs-Élysées pour assister, évidemment, au défilé de notre fête nationale. Oui, amis ou ennemis, bon, dîner entre amis, disait tout à l'heure Emmanuel Macron à propos de ce dîner à la Tour Eiffel. On va y revenir dans le détail. Beaucoup de choses ont changé apparemment dans le ton, dans le fond également. Jean-Éric Brana est avec nous. Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis, maître de conférence à l'université Assas Paris 2. Sébastien Jean, c'est le directeur du CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale. Et Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions européennes, enseignant à Sciences Po. Alors, je le disais, beaucoup d'amabilité. C'est vrai, on a entendu donc eh bien le président français parler de cher Donald, de ce dîner entre amis. Donald Trump expliquant qu'il était très honoré d'être là pour cette merveilleuse fête nationale dans ce très beau pays. Merci pour cette visite. Il était très ému à propos de la visite aux Invalides. Hein. Convergence de vue sur un certain nombre de points, notamment, eh bien, le principal, peut-être, c'est le terrorisme, bien sûr. D'accord pour accroître la coopération, expliquait Emmanuel Macron. On a des vues communes pour éradiquer le terrorisme. Trump disant, oui, on a une volonté de lutter contre ces ennemis de l'humanité. Tous les deux également d'accord pour que France et États-Unis existent quelque part dans l'après-État islamique, hein, dans la reconstruction de l'Irak, de la Syrie. Car vous savez, pour l'instant, eh bien, l'Iran, la Syrie, bien sûr, la Turquie, la Russie sont à la manœuvre dans les rencontres d'Astana, sans les États-Unis, sans la France. Emmanuel Macron veut poursuivre le travail en commun, construire la feuille de route de l'après-guerre. De la même façon, Trump veut coopérer avec le gouvernement irakien pour que cette victoire soit pérenne, contrairement à la dernière fois. Je pense qu'il fait une allusion, bien sûr, à l'un de ses prédécesseurs, George W. Bush, puis ensuite Barack Obama. En revanche, divergence, bien sûr, sur le climat. On va les entendre d'ici quelques minutes. Hein. Emmanuel Macron expliquant qu'il respecte la décision du président Trump. Hein. Pas de changement soudain, expliquait le président français. Mais on continue de discuter avec les États-Unis. Donald Trump, vous le verrez tout à l'heure, il ne s'est pas tellement étendu sur le sujet. Hein. Quelque chose pourrait se passer, disait-il. On verra ce qui se passera, mais quel que soit le cas, on le verra. Tiens, Jean-Marie Brana, quand même. Je disais sur la forme, quand même. Donald Trump, qui encense Emmanuel Macron, qui dit « Vous avez un très bon président. Vous aurez une belle ville pacifique », en parlant de Paris. Il a été également élogieux sur Xi Jinping, un homme de qualité qui aime son peuple, qui travaille avec la Corée du Nord. Beaucoup de choses se passent en Chine. Qu'est-ce qui nous l'a transformé comme ça, Donald Trump ? Moi, je l'ai jamais entendu aussi aimable qu'aujourd'hui.
Alors, il nous avait annoncé, parce qu'il nous a quasiment tout annoncé pendant sa campagne, donc il suffit de se replonger dans les discours de la campagne, il nous avait annoncé que c'est quelqu'un de très sympathique et qu'il se fait très facilement des amis et que sur le plan international, on allait voir que l'Amérique allait avoir un chef d'État qui allait être ami avec quasiment tous les autres chefs d'État, parce que on ne peut pas prospérer dans le chaos, c'était ce qu'il disait d'ailleurs, il estimait que le monde était très désordonné sous Obama, qu'il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de chaos partout et que lui allait arranger tout ça. Alors, on doit dire qu'effectivement, l'image qui est envoyée aux États-Unis aujourd'hui, elle est quand même extraordinaire. Leur président qui n'a cédé sur rien, qui a mis la barre très très haut et qui en plus se fait congratuler par le président d'une grande démocratie en Europe, qui lui tape sur l'épaule en disant « tu es mon meilleur ami » quasiment, puisque c'est ce qu'il a dit, « je vais dîner avec un ami », ce sont ses propres mots, carton plein. Effectivement, donc Donald Trump va pouvoir rentrer au pays en disant « mais je ne sais pas pourquoi vous me reprochez quelque chose, avec moi tout marche bien ». Donc effectivement, pour lui, il a remis l'Amérique sur les rails nationaux, on va peut-être en parler ou pas, mais en tout cas sur les rails internationaux, après ses 3 dernières sorties, ses 3 premières et dernières sorties, c'est effectivement le cas.
Ouais, Sébastien Jean, on avait affaire jusqu'à présent à Donald Trump assez cassant, que ce soit en tweet ou dans les conférences de presse ou les rencontres internationales. Et c'est vrai que le G20 de Hambourg la semaine dernière, bon, il était assez isolé. On ne peut pas dire qu'il était extrêmement drôlissime, souriant. En même temps, ce n'est pas forcément le rôle d'un président américain. Mais quand même, là aujourd'hui, Il est tout doux, il est tout gentil, Donald Trump, avant qu'on s'intéresse au fond, bien sûr.
Oui, c'est un exercice de diplomatie, ouais. Et effectivement, il fait assaut d'amabilité. C'est cohérent, par ailleurs, c'est intéressant ce contraste que vous faites, justement, avec son isolement à Hambourg, qui était assez net. Et c'est assez cohérent, finalement, avec la position de l'administration, qui est de dire, nous voulons des relations bilatérales, nous rejetons le cadre multilatéral. Et finalement, nous, c'est vraiment... on se fait des amis, la relation personnelle, je vais nouer des deals, donc je bâtis une confiance réciproque, et c'est un peu l'éloge de la discrétion par rapport à la règle, c'est-à-dire j'en fais à ma tête, c'est-à-dire avec chacun, je vais fixer des règles qui nous arrangeront tous les deux, et peu m'importe de savoir si c'est quelque chose qui a une cohérence au niveau global. C'est ça, finalement, le système de pensée de Donald Trump. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et du coup, c'est finalement assez logique qu'il soit relativement à l'aise dans le cadre d'aujourd'hui. Et c'est vrai que du côté français, on comprend bien qu'il y a évidemment une volonté, je pense, avant tout de limiter les dommages. C'est-à-dire qu'on sait que Trump est imprévisible et potentiellement dangereux parce qu'il est extrêmement puissant. Les États-Unis sont extrêmement puissants. Et nous n'avons pas intérêt à la confrontation, quelles que soient les différences et les divergences qui nous opposent. Elles ont été rappelées dans certains cas sur le climat, elles ont été masquées dans d'autres, notamment le commerce.
Oui, le commerce, oui, c'est vrai. On est resté sur quelques généralités, convergence de vues sur le commerce, mais à part ça, voilà, il milite Donald Trump pour des accords commerciaux réciproques et justes. Finalement, on a vu, on le verra, les sujets un petit peu, comment dire, problématiques, non consensuels, et notamment le terrorisme, qui est un sujet consensuel, bien entendu, ont été un petit peu éludés par le président américain, j'ai l'impression. Patrick Martin Génier.
Oui, moi je crois que on s'interrogeait avant cette rencontre sur l'importance des relations personnelles entre deux hommes. Et effectivement, il y a, à mon sens, un discours avant et un discours après. Une journaliste dans la salle des fêtes de l'Élysée lui a rappelé les propos d'un ami. Paris n'est plus Paris, la France n'est plus la France. Nous n'étions qu'un nid de terroristes islamistes. Et donc, l'Europe était extrêmement dangereuse. Et aujourd'hui, il dit l'inverse. Parce que, à mon avis, c'est quelqu'un qui est extrêmement sensible aux relations interpersonnelles. Et comme la qualité de l'accueil a été extrêmement chaleureuse. Il parle d'un très beau pays, d'un peuple merveilleux, des mêmes valeurs nobles et d'un pays formidable. Donc, il y a un changement sur la forme et je crois qu'effectivement, ces relations personnelles sont importantes, d'autant qu'on a beaucoup parlé de terrorisme et il a vu que les services français étaient efficaces. Et donc, je pense que pour la suite, cela sera très porteur en termes de coopération dans la lutte contre le terrorisme. Et le président de la République a annoncé un certain nombre d'initiatives. Donc, sur ce plan, ça me paraît intéressant, mais comme vous disiez tout à fait façon pertinente. Il aime ses relations d'homme à homme, d'homme à femme.
Alors, en tout cas, enfin, d'homme à femme, quand il est avec Merkel il y a quelques mois, on ne peut pas dire que il y a des relations extrêmement amicales, rien à voir avec ce qu'on a vu tout à l'heure à la conférence de presse.
Non, mais je pensais avec Theresa May, mais malheureusement, Theresa May est quelqu'un en position de faiblesse chez elle. Donc effectivement, cela est prometteur, mais vous avez raison, il y a des points de divergence et ça m'étonnerait qu'il revienne sur ces divergences. Mais je dirais, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler,
excusez-moi.
Mais sur le plan du commerce, rappelez-vous qu'Emmanuel Macron a suggéré une Europe qui protège et le fait qu'il est quand même une approche un peu moins dogmatique sur le libéralisme peut rapprocher le président des États-Unis et le président français.
Trump a en tout cas salué cette volonté de Macron de protéger justement les Européens. Juste encore un mot avant qu'on aborde les dossiers de fond. Qu'est-ce qu'ils veulent l'un et l'autre? Qu'est-ce qu'il veut Emmanuel Macron en mettant les petits plats dans les grands, en accueillant comme ça en ami Trump, en lui faisant la visite privée des Invalides, en l'accueillant sur les Champs-Élysées? C'était quelque chose d'extrêmement amical, très sympathique, hein. Et qu'est-ce que vient faire Trump, justement, à Paris? Il vient chercher un peu une respiration, pas Jean-Ric Brana?
Pas que. Je crois qu'il y a quand même une convergence assez évidente entre les deux hommes. Alors, vous avez relevé sur le commerce, effectivement, on va encore le développer un petit peu tout à l'heure, mais on dit que tout n'a pas été dit. Mais il y a quand même des choses qui ont été dites. Moi, j'ai entendu cette lutte contre le dumping. Oui. Donc, il y avait quand même la Chine qui était clairement visée, ce qui veut dire qu'alors qu'on nous a parlé d'un rapprochement possible entre les Européens et les Chinois, Emmanuel Macron a envie d'aller très doucement sur ce rapprochement supposé, parce qu'on ne sait pas où on met les pieds. Donc effectivement, on a là une convergence très forte avec Donald Trump. Mais quand on signale le dumping, on parle aussi de son corollaire, c'est-à-dire de mettre des barrières douanières. C'est bien ce que nous a annoncé de façon très brutal Donald Trump, un peu plus caché avec Emmanuel Macron, mais finalement, il ne l'a pas exclu, puisqu'il a expliqué dans son intervention de départ qu'il pourrait y avoir des réactions à ce dumping. Bah, quelle réaction voulait avoir au dumping, si ce n'est que de réagir en mettant des barrières sur les produits qui vont rentrer. Donc, bien évidemment, là, on a aussi un corollaire très fort. On a entendu également, et c'est très intéressant, on l'avait vu un petit peu venir avec Emmanuel Macron, mais ça a été éclairci aujourd'hui, la lutte contre l'administration qui empêcherait de gouverner. Ben, écoutez, si c'est pas du Trump dans le texte...
Trump a salué l'appel de Macron à faire moins de bureaucratie.
Hein. Il s'est dit, écoutez, vous me tapez dessus sur ce point-là depuis déjà plusieurs mois.
Et vous faites la même
pour
chose.
M'expliquer que finalement c'est très bien. Ben, je suis très content de vous avoir comme ami, puisque finalement vous avez les mêmes idées que moi. Ouais. On n'est pas encore arrivé à l'immigration. Vous avez remarqué que c'est quand même la grande absente des questions qui ont été évoquées aujourd'hui. On n'a pas dit qu'on était fâchés ou qu'on n'était pas d'accord. Moi, j'aurais bien aimé savoir, d'ailleurs, un petit peu plus où on allait. Si c'était un corollaire du terrorisme ou si c'était une question de droits de l'homme. C'est pas quand même innocent.
C'est pas la même chose.
Et dans la patrie des droits de l'homme, au moment où on va célébrer les Lumières, demain, c'est notre fête nationale, j'aurais bien aimé, moi, qu'on parle de cette question quand même. Terminer là-dessus parce que...
Je suis d'accord avec vous.
Sur le climat, il dit... J'ai bon espoir que dans l'avenir ça change. Écoutez, avec Donald Trump, on l'a entendu 500 fois, en 30 jours.
Il a bien
jours, expliqué à chaque fois qu'il pourrait changer peut-être dans l'avenir, parce qu'il nous l'a fait très pragmatique. Il dit, je ne sais pas de quoi il fait demain, mais pour rentrer chez lui et expliquer bien sûr à ses soutiens que, rassurez-vous, il n'en est pas question, puisque je continue ma ligne.
Vous auriez voulu, Jean-Luc Brunet, peut-être que le président de la République française s'exprime davantage sur le Muslim ban. La question lui a été posée en effet. Il n'a pas forcément répondu, il n'a pas forcément condamné. Il avait condamné la répression des homosexuels devant Poutine à Versailles. Est-ce que vous avez l'impression qu'il a mieux reçu Trump qu'il avait reçu Poutine ?
Ah bah écoutez, le choc est quand même très violent.
C'est l'impression que ça
moi,
donne.
Je veux dire, c'est vrai que Vladimir Poutine a été reçu à Versailles, qu'on a les fastes, très bien.
Mais c'était froid de part et d'autre. Hein.
Bah, c'était les débuts quand même. Il faut reconnaître qu'on on démarrait en politique étrangère pour l'un et pour l'un en tout cas.
Oui, pour
En revanche, là, j'allais dire, on a sorti tout. Les petits dans les grands, l'argenterie, on a refait les tapis, on a refait les tapisseries. Il y a la totale. Je crois même que tout était neuf. Donc c'était vraiment...
était neuf, pardon. Aux Invalides, il y avait des images qui n'étaient pas très claires pour la France.
On a fait le grand reset.
Il y avait des travaux, il y avait des bâches.
Grand réenclenchement que Trump souhaite avec chaque partenaire, il a eu lieu avec Emmanuel Macron. Très clairement, il va être très difficile maintenant à Emmanuel Macron de se fâcher avec Donald Trump et de le justifier.
Ouais. Sébastien Jean, directeur du CPI.
Oui, il me semble que on est dans ce contexte où on a un de nos alliés majeurs vis-à-vis duquel il y a une véritable incertitude. Et donc, effectivement, moi, je vois aujourd'hui une grosse offensive de charme diplomatique pour essayer de créer une confiance interpersonnelle entre les présidents en se disant c'est un acquis important pour les liens entre nos deux pays et c'est précieux en ce moment parce que nous sommes à un moment de très grande fragilité. Parce que quand je dis tout à l'heure sur le commerce, ils ont évacué, c'est-à-dire qu'ils ont complètement évacué les divergences. Et donc c'est très symptomatique, vous le releviez tout à l'heure. La seule chose que Emmanuel Macron a mentionné sur le commerce, c'est la lutte contre le dumping. Ouais. C'est-à-dire la seule chose qui les rassemble, parce qu'effectivement Emmanuel Macron a cette particularité parmi les dirigeants européens, notamment en contraste avec les Allemands, d'insister sur, même si les Allemands le font un peu plus maintenant, d'insister sur la nécessité de se protéger contre notamment le dumping ou les pratiques commerciales déloyales. Et donc, finalement, là-dessus, ça a fait un point de convergence, c'est-à-dire il faut se protéger des pratiques déloyales, il faut protéger nos emplois, il l'a rappelé aussi, hein, et donc là-dessus, on peut se retrouver. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose tant qu'on n'a pas expliqué ce qu'était une pratique déloyale et jusqu'où ça allait et où ça s'arrêtait. Or, Donald Trump, on voit bien qu'il a une vision qui est extrêmement extensive des pratiques commerciales déloyales. En gros, déjà, tous les partenaires avec qui ils font un déficit, ça veut dire que c'est déloyal, ce qui n'a aucun sens, ni économique, ni même juridique par rapport aux accords internationaux. Donc, il est en train de bafouer, ostensiblement les règles internationales. Et par ailleurs, donc, sans rentrer dans le détail, Ils sont en train de mener des enquêtes pour voir si les importations d'acier et d'aluminium ne mettraient pas en péril la défense, la sécurité nationale aux États-Unis. Là encore, ça n'a aucun sens par rapport à la réalité des faits. C'est très inhabituel par rapport aux pratiques commerciales. Et dernier point, c'est pour ça que je disais c'est très sensible, c'est que potentiellement c'est très grave par rapport aux Européens, parce que ce qui se passe, c'est que quoi qu'en dise l'administration Trump, l'administration précédente déjà a beaucoup utilisé notamment les droits anti-dumping, les sanctions anti-dumping contre la Chine, si bien que dans ces secteurs ils importent désormais très peu de la Chine, et donc les gros fournisseurs des États-Unis, ça n'est plus la Chine, c'est le Canada, le Japon, la Corée et l'Allemagne et la France. Et donc ils devaient rendre leur premier rapport, qui était la première étape dans ces mesures qui sont en gros des équivalents de mesures de sauvegarde, enfin en gros des mesures protectionnistes contre les importations d'acier et d'aluminium. Ils devaient les rendre, ils avaient dit en tout cas, parce que c'était pas une obligation, qu'ils les rendraient fin juin. Ils ont reporté, donc c'est un signe. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des avis assez divergents dans l'entourage de Trump lui-même. Trump, on sait pas très bien ce qu'il pense. On a l'impression que ils hésitent à vraiment trancher ce dossier. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est potentiellement un moment où on peut essayer de changer, de faire tomber la hache, disons, du à côté, et d'obtenir par exemple une exemption pour les Européens des mesures qui pourraient être prises. Et ça, c'est très important, parce que si jamais ils enclenchent des mesures comme celle-là, les Européens ne pourront pas faire autre chose que de prendre des représailles, et là on a un risque d'escalade.
Et juste un mot, parce que là aussi la vraie question à mon avis qui se pose, c'est quid de l'OMC? Parce que pour l'instant, on est en train de passer les grandes organisations internationales une par une avec Trump. On n'a pas encore passé ce passage-là, qui est quand même un gros morceau, il me semble.
Il a réduit les subventions à l'ONU.
Évidemment, peut-être même qu'il quittera l'OMC. En tout cas, il est en train de se rapprocher de partenaires. C'est pour ça que je disais que une fois qu'on se rapproche à ce point-là, ça va être très difficile ensuite de se critiquer mutuellement. Donc, il amène dans son giron des partenaires importants. Enfin, la France, c'est pas n'importe qui. Pour pouvoir éventuellement, vous savez, les fameuses barrières douanières dont il parlait, il ne s'agit pas de 3%. Hein. Ouais. On est quand même sur des gros volumes. Donc, à ce moment-là, l'OMC va dire non, c'est interdit. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les uns et les autres?
Patrick Martin-Genis, on a entendu tout de suite Sébastien Jean qui parlait d'offensive internationale. Offensive internationale des deux, nécessairement, de Trump, qui vient un petit peu redorer son blason. Mmh. Emmanuel Macron aussi, s'était posé comme prenant le leadership mondial, notamment dans l'accord de Paris. Emmanuel Macron, fort de son aura, bien entendu, de son élection il y a quelques semaines, maintenant, 2 mois maintenant, et qui bénéficie d'une certaine réputation, bonne réputation à l'international. C'était bon pour la France aussi de recevoir comme ça Trump, comme il l'a fait vraiment.
Moi, je pense que c'est bon pour la France, parce que ça la place au niveau. D'abord, c'est une puissance nucléaire, au même titre que les États-Unis, membre permanent du Conseil de sécurité. Donc, il y a une exigence particulière, premièrement. Et deuxièmement, je crois que la politique a horreur du vide, comme vous savez. Et aujourd'hui, en Europe, finalement, on a deux femmes, excusez-moi, qui sont en difficulté. D'abord, Angela Merkel est en difficulté dans ses relations avec Trump, puisqu'elle est très ferme, mais elle ne s'entend manifestement pas avec lui. On l'a vu lors de sa visite à la Maison Blanche, et il n'a pas été particulièrement chaleureux avec elle lors du G20. Il aurait souhaité établir cette relation spéciale avec Theresa May, la fameuse relation spéciale avec la Grande-Bretagne. Malheureusement, elle est en position politique très difficile. On ne sait pas si elle va pouvoir se maintenir au gouvernement. Donc,
anniversaire aujourd'hui de Theresa May.
Et il a proposé un accord commercial avec Theresa May. On ne sait pas si elle sera en situation juridique et politique de le faire. Mais pour Emmanuel Macron, c'est une formidable opportunité de mettre la France là où elle doit être, parce qu'il va prendre le leadership en Europe, et donc c'est gagnant-gagnant, je dirais, aujourd'hui. Et je crois que, et les Français ne s'y sont pas trompés, ils sont majoritairement favorables à la réception de Donald Trump, alors qu'en Grande-Bretagne, ce n'était pas la même chose. Et je crois que, compte tenu de cette conférence de presse, effectivement, c'est une bonne chose pour la France et pour le leadership d'Emmanuel Macron dans le monde et en Europe.
Alors, quand même quelques divergences. Donc, bien sûr, on a parlé du commerce. Bon, tout n'a pas été dit, tout n'a pas été précisé. Il y a évidemment le climat. Souvenez-vous donc de cet appel lancé par Emmanuel Macron quelques heures à peine que Donald Trump a annoncé qu'il se retirait de l'accord de Paris. Make our planet great again. Il a pris en quelque sorte le leadership. Il l'a reconfirmé la semaine dernière à Hambourg en décidant d'organiser une conférence internationale à Paris au mois de décembre pour célébrer les 2 ans et accélérer donc sur cet accord de Paris. Eh, la question leur a été posée à l'un et l'autre tout à l'heure à la conférence de presse, justement. Est-ce qu'il y avait une possibilité pour que Trump évolue, change de position? Allez, extrait de cette conférence de presse.
Est-ce que cela doit empêcher, gêner les discussions que nous avons sur tous les autres sujets? Résolument, non. En aucun cas. C'est le cas. Nous partageons des vues, des objectifs éminemment importantes sur tous les autres sujets que j'ai évoqués aujourd'hui, sur lesquels nous devons avancer ensemble. Ensuite, est-ce que c'est irrémédiable? Je laisserai le président Trump s'exprimer, mais j'entends qu'il y a des engagements qui ont été pris, que le président Trump veut pouvoir travailler sur ce sujet. Mon souhait, c'est de continuer à discuter avec les États-Unis d'Amérique et le président Trump sur ce sujet qui est extrêmement important.
Oui, en effet, quelque chose pourrait se passer au niveau de l'accord de Paris. On verra ce qui se passera, mais nous en parlerons à l'avenir. Et si cela se produit, ce sera formidable. Dans le cas contraire, ce sera acceptable également.
Bon, donc on verra. Il s'est pas trop étendu, hein, Donald Trump. Tout à l'heure, Sébastien Jean, Jean-Ric Brana, Patrick Martin-Génier, justement. Est-ce que quelqu'un pensait, espérait que Trump puisse changer d'avis, justement, lors de cette conférence de presse parisienne? Non?
Non, enfin,
Sébastien Jean.
Pas moi, en tout cas. Je crois que là, on touche les limites de la diplomatie. Ça peut chercher à faire évoluer, justement, à certains moments, on peut penser qu'il y a une certaine souplesse dans les positions, qu'on peut essayer d'exercer une influence. Bon, sur l'accord de Paris, Donald Trump a déclaré le 1er juin que les États-Unis se retiraient de l'accord de Paris. Moi, personnellement, je pense qu'il est invraisemblable que le 13 juillet, ils disent « Ah ben, finalement, on revient ». Voilà. Donc, bon, j'ai pas bien compris ce que voulait dire sa phrase, là, très honnêtement.
Ouais, quelque chose pourrait se passer, on verra ce qui se passera, et quel que soit le cas, on verra. Voilà.
On va voir. Donc, là, moi, j'y vois également plutôt une preuve de bonne volonté. C'est-à-dire, on n'est pas d'accord, mais moi aussi, je vais pas vous renvoyer en pleine figure que c'est un non plat et que on passe au suivant. Non, je vous dis quand même, sans m'engager, que ben, j'ai une bonne volonté et puis voilà. Alors qu'on sait très bien qu'il y a une opposition frontale là-dessus.
Sûr. Une bonne volonté pour quoi faire, oui.
Non, permettez-moi surtout de relever le changement chez Macron également, puisqu'on l'a relevé chez Donald Trump. On va le faire chez notre président.
Oui, bien sûr.
Il
n'y
a pas de raison.
Oui.
Mais normal. On est quand même avec l'homme qui a pris cette posture. Oui. Vous l'avez d'ailleurs rappelé. Ouais. Make our planet great again. C'est pas rien.
Non.
C'est l'homme qui a fait un discours en anglais pour qu'il soit compris par les Américains.
Il était 23h30, c'est-à-dire à une demi-heure du journaux de 18h.
On est bien d'accord. Ouais. C'est l'homme qui ensuite convoque une conférence supplémentaire à la fin de l'année. C'est l'homme qui tend la main à Jerry Brown, le gouverneur de Californie, qui s'est dressé tout de suite contre Donald Trump ou celui de New York qui a fait la même chose.
Donc il s'écrase
et
devant
tout d'un coup, bah évidemment, c'est passé par perdre ses profits.
Ouais.
On prend le climat, on le range dans sa boîte, on ferme la boîte et on comprend tout d'un coup pourquoi Donald Trump a fait ça. Il nous l'explique, il dit « Ah mais j'ai compris !» Il a expliqué à ses électeurs. Alors je peux que respecter ça, puisqu'il a expliqué à ses électeurs. Mais c'était déjà le cas le 1er juin, enfin ça n'avait pas changé. Pardon, mais moi je suis
non, vous avez raison,
un petit peu...
Comme je disais tout à l'heure, il s'est passé beaucoup de choses pendant cette conférence de presse.
Bah oui.
Beaucoup de choses ont changé, même
Il faut
Emmanuel
le relever
Macron.
Pour ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire on l'a rangé dans une boîte en faisant comme s'il ne se passait rien, avec
et
un ton calme.
Dire, par exemple, regardez ce qu'on disait tout à l'heure à propos de Trump, de Poutine, Macron à la galerie des... Enfin, je ne sais plus ce que c'était, enfin à Versailles en tout cas, avec un ton extrêmement martial de part et d'autre, hein. Même Macron reprochant vertement donc à Poutine ses cas de vérité, notamment sur ses médias ou outils de propagande. Là, finalement, aujourd'hui, Macron...
Et en recevant les Indiens derrière,
enfin,
on pourrait faire la liste. Ouais. Là, tout d'un coup, on nous a expliqué que, vous savez, bon, c'est comme ça, bon, il aime pas le climat, on va pas
l'embêter.
C'est quand même, on l'a dit, l'enjeu fondamental pour la planète, pour l'avenir de nos enfants. On parle pas simplement de nous, là, on parle de nos enfants, de nos petits-enfants et de notre planète. Quand ça a été signé en 2015, je me souviens des discours émus de Laurent Fabius, qui était à l'origine de cela, d'Al Gore, qui se trouvait là, de Kerry, qui ont travaillé. Tout ça est passé par pertes et profits. Excusez-moi, dans ces quelques paroles, ce n'est pas rien. Je crois que on pouvait faire de la diplomatie, vous avez rappelé que c'était un exercice diplomatique, on peut faire la diplomatie en disant en même temps
les choses bien. Ouais.
Non seulement je ne suis pas d'accord, mais je vais tout faire pour le faire changer d'avis. Chaque jour, s'il faut, j'irai l'appeler pour lui expliquer qu'il se trompe.
Est-ce que vous avez l'impression quand même que quelque part, Emmanuel Macron ne vient pas au secours de Donald Trump? On sait que Donald Trump, en ce moment, connaît une phase, enfin encore plus que d'habitude, difficile, l'histoire de ses relations, de son clan, de sa famille, de lui-même avec la la Russie. Le fait que les promesses électorales, au bout de 6 mois, elles sont peut-être pas forcément au rendez-vous. Oui, ça fait 6 mois qu'il a été élu, en tout cas qu'il est arrivé au pouvoir, Trump, la réforme de l'assurance maladie, les emplois notamment. Et on voit Macron venir au secours de Trump, donc sur le climat peut-être, hein, Jean-Luc Bradin, ça, vous êtes d'accord avec ça? Et puis,
je suis pas d'accord par contre sur l'analyse, en disant
allez-y.
Ça ne réussit pas pour Donald Trump, parce qu'en réalité, là aussi, on va peut-être un petit peu vite en besogne. Bon. On peut expliquer qu'il a pas fait beaucoup de lois, mais c'est pas le premier. Vous savez, à part Barack Obama qui en avait fait beaucoup, tous les autres présidents arrivés au bout de 6 mois.
C'est bien, voilà,
on fait deux
historiens des États-Unis.
Point. Ouais. Et sur l'ensemble d'une mandature, un président en fait une dizaine.
Il n'y a pas d'impatience quand même au bout de 6 mois sur les baisses d'impôts, sur la réforme de l'assurance.
Les baisses d'impôts, elles arrivent en septembre, vous le savez bien. C'est à ce moment-là qu'elles vont être.
Je sais bien.
Qu'elles vont être.
Qu'elles ne sont pas là,
discutées.
On verra bien.
Non, bien sûr. Je veux dire, le texte arrive en discussion. Là, dans 3 semaines, ils sont tous en vacances. Enfin, peut-être pas, puisqu'ils ont expliqué qu'ils feraient peut-être sauter les vacances pour faire accepter la loi sur la santé. Parce que cette loi-là n'est pas encore passée, effectivement. Ils sont toujours en difficulté, parce qu'au sein du Parti républicain, on n'arrive pas à se mettre d'accord, notamment sur les primes et les taxes qui vont être payées par les différentes personnes.
Il y avait un extrait quand même aussi tout à l'heure, lorsqu'il y a eu cette question en effet sur les affaires russes de Trump, hein, question qui a été posée par une journaliste américaine, sur la rencontre entre le fils aîné de Trump et notamment Natalia Veselnitskaya, une avocate russe rattachée au Kremlin pendant la campagne présidentielle de 2016. Trump a expliqué à propos de son fils: c'est un très bon garçon, il est merveilleux, le rendez-vous était très court finalement, quiconque aurait accepté cette réunion. Et on a vu le président de la République française finalement voler au secours de Trump en disant: la Russie, c'est important. Nous aussi, il faut qu'on ait des relations avec la Russie. Moi, j'ai des relations avec la Russie. C'est important, c'est nécessaire d'échanger avec la Russie. Vous avez trouvé ou pas que Macron est venu quelque part un petit peu déminer, venir aider Donald Trump ou pas, Patrick Martin Genier?
Oui, moi je crois surtout qu'il a fait preuve de prudence, parce qu'il est là pour recevoir avec tous les faces de la République le président des États-Unis. Il compte sur lui, dans la lutte contre le terrorisme, et surtout sur le plan financier. Parce que la lutte contre le terrorisme sans argent, c'est le nerf de la guerre, ça n'ira pas bien loin. Donc il a voulu laisser ça de côté. Quant à savoir s'il est allé au secours du président des États-Unis, je crois que surtout il n'a pas voulu s'en mêler. Mais il y a une chose extraordinaire dans cette conférence de presse, c'est qu'Emmanuel Macron a refusé à Hambourg de répondre à une question sur la politique nationale, hein, tandis que Donald Trump a trouvé ça tout à fait normal
de répondre.
Il s'interroge sur un des sujets les plus chauds qui met en ébullition la capitale américaine.
La question à Hambourg qui avait été posée, c'était sur les affaires Business France Madame Pénicaud, la ministre
tout
du Travail.
Tout à fait. Donc il a tout à fait refusé, et donc il s'est tenu à sa ligne de conduite en disant qu'il ne devait pas s'immiscer dans les relations intérieures. Et donc je crois aussi, peut-être, vous l'avez souligné, il y a peut-être une convergence idéologique finalement sur certains points entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Et je crois que c'est intéressant, notamment sur le commerce, on l'a vu. Et quant à l'environnement, il faut faire attention. Moi, je serais un peu plus prudent, car lorsque le président va rentrer à Washington après-demain, que va dire Donald Trump sur l'environnement? Que va dire Emmanuel Macron, alors qu'il a pris une véritable initiative politique à Hambourg de convoquer un sommet sur l'environnement? Et je crois que chacun reviendra un peu sur ses positions.
Donc, finalement, pas forcément deux hommes différents comme on pouvait imaginer. C'est vrai que les débuts ont été un petit peu compliqués, la poignée de main difficile, des accords sur le climat. Et puis, tous les opposent quelque part. Ce jeune centriste pro-européen face à, un isolationniste plus âgé et puis plus incertain. Voilà. Donc, finalement, vous dites qu'il y a plus de convergence que prévu.
Je pense que sur le plan idéologique, oui, il y a plus de convergence que prévu.
Sébastien Jean, directeur du CPI.
Oui, il me semble que moi, ce que je vois, en tout cas, notamment dans l'attitude du président français, c'est une volonté de pragmatisme, c'est-à-dire de la réelle politique. Alors, ça a ses avantages et ses inconvénients, hein. Mais je veux dire, par exemple, sur l'environnement, on peut pas l'accuser d'avoir été d'une façon générale inactif sur les questions environnementales, confère encore l'initiative qu'il prend au G20. Donc là, il rappelle son opposition, et en même temps, effectivement, il fait les différences de vues, les divergences même avec Donald Trump au sujet de l'accord de Paris. Il fait un peu le service minimum là-dessus, effectivement, mais enfin, il l'a quand même mentionné. J'interprète ça comme l'idée que, de toute façon, il ne peut rien obtenir de Trump et des États-Unis par la diplomatie, parce que la position américaine est radicalement antithétique de ce qu'est l'accord de Paris et ce que il essaie de soutenir. Le prix que ça dit quelque chose finalement des arbitrages qu'il est prêt à faire, c'est-à-dire un peu moins insister là-dessus, si donc combien il serait prêt à payer finalement en termes de moindre soutien sur d'autres aspects commerciaux, défense, terrorisme.
Il va y avoir un marchandage.
S'il y avait plus de, disons, là l'impression qu'on a, c'est qu'il n'a pas voulu griller de capital diplomatique sur la question du climat en se disant de toute façon je n'obtiendrai rien de lui là-dessus. Le prix qu'il peut en payer, c'est que ça peut devenir un peu un allié dangereux d'une façon générale d'ailleurs, un allié un peu encombrant par certains aspects, c'est-à-dire qu'après en termes symboliques, effectivement on peut lui reprocher de pas suffisamment pointer du doigt la contradiction du et le caractère incohérent et potentiellement dangereux des positions du président américain. Donc voilà, ça peut s'avérer un peu dangereux, mais moi il me semble que c'est avant tout un calcul de pragmatisme qui est fait là.
Jean-Éric Branat.
Encore une fois, c'est au mépris de la tradition française. Je vais prendre l'autre exemple que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'immigration, les réfugiés. Figurez-vous qu'hier, les Américains ont atteint la limite du nombre de réfugiés qui a été fixé par le premier décret de Donald Trump, 50 000. Depuis hier, ils sont, puisqu'il y en a 160 qui sont arrivés hier, on est passé à 50 082. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, 13 juillet, il n'y a plus personne qui rentre. On parle de réfugiés.
Oui,
on ne parle pas d'immigrés. De gens qui sont en danger de mort dans leur pays. Donc on est dans les droits de l'homme. Il me semble que là aussi, c'était le rôle du président français que de relever cette anormalité, puisque tous les pays démocratiques fonctionnent avec l'accueil des réfugiés, en disant peut-être que la nouvelle limite que vous avez fixée, qui est moitié moindre de celle de Barack Obama, qui était déjà très basse d'ailleurs, n'est pas adéquate. On peut toujours allonger ces limites, et c'est certainement ce qui va se faire, mais il faut le rappeler quand même. Voyez, on est sur des sujets sensibles qui font que, pour moi, vous parliez de diplomatie à juste titre, vous l'évoquez en disant on est doux sur le ton, en fait, c'est ce que vous vouliez faire entendre. En même temps, il y a des rappels à faire, rappels qui ont été faits à travers l'histoire par deux pays. La France et les États-Unis, jusqu'à maintenant, sont les deux pays, quel que soit l'endroit sur la planète, nos présidents, en se déplaçant, rappelaient les questions fondamentales de droits de l'homme et de grands principes et de grandes valeurs qui ont fait l'ensemble de nos nations au cours du temps. Donc, je veux dire simplement, oui, quand on recule là-dessus, vous voyez, c'était un discours polissé, gentil, plein de sourires et plein de décorum, c'est parfait. C'est notre rôle, à un moment, de dire, attention, là, il y a un danger. Pour Donald Trump, encore une fois, et je l'ai assez claironné depuis qu'on sait qu'il y a cette visite, c'était tout bénéfice. Ça sert la propagande de Donald Trump, ça sert le système qu'il a mettre en place, le remodelage du monde. Il rentre en grand vainqueur aux États-Unis. Quoi qu'on en dise, c'est le troisième grand déplacement international de Donald Trump. C'est la troisième grande victoire de Donald Trump. Il va encore une fois...
C'est le plus réussi à vos yeux ?
Ah non, c'est
parce
pas le
que la première tournée européenne, c'était pas forcément bien passé.
Si, elle était vraiment très bonne. Mais les trois ont été très bonnes.
Vatican, autant.
Il a mis en place sa politique internationale sur les trois voyages. Et les trois sont cohérents et logiques sur ce qu'il voulait nous expliquer, qu'il nous a expliqué encore une fois pendant la campagne, puisqu'on a toutes ces explications. Il nous les a disséminées pendant la campagne en teasing, comme il sait faire comme un homme de télévision.
Alors, les convergences quand même, il y avait un sujet consensuel, bien sûr, point de convergence essentiel, la lutte contre le terrorisme, et là, on va voir, mais a priori, pas forcément donc de divergence, quoique quand même, on verra comment les États-Unis peuvent s'engager au Sahel, justement, aux côtés des Français. Emmanuel Macron, donc, a été le premier à souligner, justement, ces points de vue communs entre les deux pays.
Qu'il s'agisse de la Libye ou du Sahel, je crois pouvoir dire que nous avons une vision conjointe, extrêmement cohérente de la situation, et une volonté, là aussi, d'agir de manière très claire pour lutter contre toutes les formes de déstabilisation et le terrorisme.
Voilà, donc le terrorisme, vue commune pour éradiquer le terrorisme, volonté de lutter contre ces ennemis de l'humanité, répondait donc le président américain, tous les deux d'accord pour accroître la coopération. Elle va jusqu'où cette coopération, notamment, je pense notamment Emmanuel Macron, début juillet, est venu installer à Bamako la force G5 du Sahel, donc un nouveau groupe de 5 pays, Niger, Mauritanie, Tchad, Burkina Faso, et il m'en manque un, mais ça va revenir évidemment, bien sûr, pour lutter davantage aux côtés de Barkhane contre les djihadistes d'Al-Qaïda, notamment au Maghreb islamique. Ça coûte cher, ça coûte presque 500 milliards d'euros cette force. Est-ce que les États-Unis vont s'engager financièrement pour aider justement cette nouvelle force militaire? Jean-Éric Brana, on n'a pas eu la réponse tout à l'heure.
Ah non, on aimerait bien l'avoir d'ailleurs, parce que c'est quand même le gros point qui nous manque. C'est vrai que pour l'instant, elle est formidable, cette force, mais il nous manque le financement. Et pour l'instant, les États-Unis ont déjà une réponse qui est très claire. Dans le budget qui est proposé, qui est actuellement devant le Congrès, il n'y a pas l'argent, puisque le budget des affaires étrangères a été diminué de 25%, non seulement pour tous les accords internationaux, en particulier ceux qui sont éducatifs ou humanitaires, mais il n'y a pas ce type de financement non plus. Même si le budget de l'armée va être encore réévalué à l'avenir, Donald Trump l'a promis, donc on pourrait se dire que là, dans le cadre de la diplomatie, effectivement, et des accords bilatéraux qui se feront avec la France, Emmanuel Macron pourrait arriver à décrocher une partie du financement qui serait clairement dirigé sur le G5 Sahel, mais pour l'instant, il n'y est pas.
Et il n'y a pas. Patrick Martin-Génier, justement, ensuite, il y a aussi l'après-État islamique en Irak, en Syrie, bien sûr, alors que Mossoul donc, est tombé donc, en début de semaine. Que disait le président de la République française? On va poursuivre le travail en commun, on va construire la feuille de route de l'après-guerre. Et d'ailleurs, il y a une volonté aussi de Donald Trump de coopérer avec le gouvernement irakien pour que cette victoire soit pérenne. Ça veut dire quoi, la France, les États-Unis qui avaient été mis de côté donc, eh bien, des grandes réunions internationales d'Astana, notamment, je pense aux dernières, hein, avec l'Iran, avec la Turquie, avec la Russie, bien sûr, et puis la Syrie, quand il s'agit de questions de Syrie. Est-ce que ces deux pays vont revenir autour de la table? Ils avaient été mis de côté, quelque part.
Oui, moi je pense qu'il y a une volonté du président de la République de réinsérer les États-Unis dans ce jeu diplomatique, notamment en Syrie. On l'a vu aussi, vous savez, le fameux format Normandie pour l'Ukraine.
L'Ukraine, tout juste. Hein,
et d'ailleurs, effectivement, à mon avis, ce serait tout à fait pertinent que les États-Unis reviennent dans ces négociations dans le cadre d'un rapport de force avec la Russie. Et donc, lorsqu'il y avait des divergences entre Angela Merkel et la France, notamment sur le rôle que doit jouer Bachar al-Assad, la question essentielle, c'est est-ce qu'il a encore un rôle à jouer dans l'après-guerre? Et effectivement, là, il semblerait que le président de la République soit un peu plus souple et dise qu'il va réinsérer dans le jeu politique Bachar el-Assad. Donc, il y a un problème d'argent, mais une feuille de route politique, ça veut dire aussi que le président de la République, qu'il s'agisse d'ailleurs de la lutte contre le terrorisme au Sahel, est là. Donc, il y a un aspect politique très important et ne pas se confiner à l'aspect militaire.
Un mot, Jean-Éric Brana, Sébastien Jean. Tiens, Sébastien Jean du CPI, sur cette question, justement, de la lutte contre le terrorisme.
Oui,
et du retour, peut-être des États-Unis et de la France sur la scène internationale dans le dossier Proche et Moyen-Oriental.
Oui, je pense également qu'il y a vraiment une volonté de la France de s'assurer que les États-Unis continuent de jouer un rôle coopératif au niveau, en tout cas, pas forcément multilatéral, mais enfin dans la gestion de ces conflits, qu'ils ne cèdent pas à ces penchants complètement unilatéralistes et puis à une sorte d'instabilité ou d'incohérence dans leur comportement.
Jean-Éric Brana.
Écoutez, j'ai envie de vous dire que Trump doit être un très bon négociateur parce qu'il a réussi là aussi à convaincre Emmanuel Macron qui a reculé ou qui s'est laissé convaincre, ou je ne sais pas comment on peut le dire de façon positive, sur la politique de remplacement qui donc a été complètement effacée. C'est quand même la grande politique de la France. Désormais, on ne parle plus d'enlever Bachar al-Assad. On se contente simplement de mettre la paix dans cette région.
Amis, ennemis, Trump et Macron?
Ah mais finalement, les meilleurs amis du monde.
Ça a l'air ce soir, Sébastien Jean.
Moi, je pense qu'ils essaient de bâtir statut d'allié.
Bon, Patrick, Martin Génier.
Des amis, mais avec des disputes, comme dans tout couple d'amis.
Si vous voulez. Voilà, donc, ce n'est pas fini, puisqu'il y a le dîner à la Tour Eiffel, le défilé du 14 juillet. Merci à tous les trois. Jean-Éric Brana, donc spécialiste des États-Unis, maître de conférence à l'Université Paris 2 à Sas. Sébastien Jean, le directeur du Centre d'études prospectives et d'information internationale, le CEPI. Patrick Martin Génier, spécialiste des questions européennes, enseignant en Sciences Po. Merci à tous les trois, à tous. Hein, aussi, un très bon été, de bonnes vacances, les décodeurs de l'écho qui reviendront le lundi 21 août.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.